Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, en ce moment, l'on fête le centenaire du décès de Marcel Proust. Alors, Marcel Proust est, comment je peux dire, attaché à notre région de par ses amours féminines et puis aussi par ses relations. Alors, on a vu un peu sa biographie. Et maintenant, on va se plonger dans la recherche du temps perdu, qui est son principal ouvrage. Alors, la recherche du temps perdu comporte 7 titres principaux. Il y a Du côté de chez soi, paru en 1913. Alors, Des jeunes filles en fleurs, 1918. Du côté de Guermantes, 1921 et 1922. Sodome et Gomorre, 1922-1923, donc au moment de son décès. La prisonnière en 1923, Albertine disparue 1925, Le temps retrouvé 1927. Il y a également une édition en bande dessinée publiée de 1998 à 2006, adaptation et dessin de Stéphane Huette pour les éditions Delcourt. Alors, mais il y a également une version, mettons, plus érotique publiée en feuilleton dans une revue spécialisée. Alors, plus certainement quelques autres, ma foi, que je ne connais pas particulièrement. Et puis, bien sûr, il y a eu des adaptations cinématographiques. Alors, À la recherche du temps perdu, c'est une satire et une réflexion sur le monde dans lequel vit Marcel Proust et dont il est l'observateur. Alors, l'ouvrage comporte près de 200 personnages, dont certains sont l'amalgame de plusieurs personnes de son entourage ou de ses connaissances qu'il fait évoluer au gré de son inspiration, des événements ou de sa vie privée. Alors, une précision, il y a deux lieux qui sont cités principaux, il y a Illiers, en Eure-et-Loire, ville où son père est originaire et qui devient Combray. Je crois que la ville d'abord s'appelle Illiers-Combray. Alors, où enfin Marcel Proust venait passer ses vacances chez sa tante Elisabeth Amiot, qui devient la tante Léonie. Puis il y a Cabourg, qui devient Balbec, ville de Normandie, où il viendra au Grand Hôtel séjourner de 1907 à 1914. Alors, parmi les personnages qui figurent dans La recherche du temps perdu, il y a quelques périgourdins, d'abord Gilbert, personnage central, et qui est bien entendu Jeanne Pouquet, dont voici un rappel de l'origine. Elle est née en 1874, son père Eugène Pouquet, originaire d'Angoisse, donc en Périgord, propriétaire des Sandières, obtient une charge d'agent de charge à Paris. La jeune fille fréquentera la jeunesse aisée de son époque, dont Marcel Proust, qui en sera amoureux. Alors Maria Gasson de Caillavé, auteur de avec de flairs de comédie à succès, composées pour certaines à Sandiras. Puis, en 1894, elle donnera le jour à une fille Simone, qui sera mannequin et fréquentera les grands de ce monde. Alors, en seconde noce, donc Simone épousera André Mauroy. Quant à sa mère, Jeanne, veuve, elle se remariera avec un cousin, Maurice Pouquet. La dernière guerre surprendra tout le monde, en Dordogne, et tout ce beau monde, ma foi, séjournera à Essandiras, où ils demeureront désormais. Alors, pour en revenir à la recherche du temps perdu, Jeanne Pouquet deviendra Gilberte, fille de Charles et d'Odette Swann, puis Madame de Saint-Loup, omniprésente tout au long de la saga. Mais Gilberte est également le portrait de Marie Bernardacchi, amour de Marcel, adolescence. Et puis, il y a le docteur Cottard. Alors, le docteur Cottard, c'est principalement Pozzi. Le docteur Pozzi, qui était célèbre à son époque. Alors, Pozzi, d'ailleurs, invitera Marcel Proust pour son premier repas mondain. Et Cottard, donc Proust et compagnie, il est cité 290 fois tout au long de l'histoire. Voici deux passages le concernant. Et ces passages sont dans l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc, je cite. Ce n'est pas seulement un effet comme un praticien obscur devenu à la longue notoriété européenne que ses confrères considéraient Cottard. Les plus intelligents d'entre les jeunes médecins déclarèrent, au moins pendant quelques années, car les modes changent, étant née elle-même du besoin de changement. Et si jamais ils tombaient malades, Cottard était le seul maître auquel ils confiaient leur peau. Alors, pourtant controversé, Proust aura recours à son diagnostic. Voici le passage, toujours à l'aube des jeunes filles en fleurs. Puis mon état s'aggravant, se décida à me faire suivre à la lettre les prescriptions de Cottard. bout de 3 jours, je n'avais plus de râle, plus de toux et je respirais bien. Mais nous comprîmes que Cottard, tout en me trouvant, comme il le dit par la suite, assez asthmatique et surtout toqué, avait discerné ce qui prédominait à ce moment-là à moi. C'était l'intoxication et qu'en faisant couler mon foie et en lavant mes reins, il décongestionnerait mes bronches, me rendrait le souffle, le sommeil, les forces et nous comprîmes que cet imbécile était un grand clinicien. Voilà donc pour le docteur Cottard, qui est principalement le docteur Pozzi, dont on reparlera certainement un jour, qui était originaire de Bergerac. Il y a également dans la recherche des personnages fictifs, dont Artaban. Alors il est cité dans Du côté de chez Swann, et voilà ce qu'il dit. « Je l'avais vu, proclame sa tante, qui passait maintenant en calèche, fier comme Artaban. » Alors Artaban, dont la fierté est devenue légendaire, est un héros de Cléopâtre, roman en 13 volumes de Gauthier de Coste de la Calprenède, originaire de Salignac, et c'est un romancier du XVIIe siècle. Il est considéré comme l'ancêtre des feuilletonistes. Alors, il est cité à l'ombre des jeunes filles en fleurs, où l'on retrouve également Télémaque, personnage du roman de Fénelon. Et pourtant, ça me rappelait expressément leur céleste origine, comme si pareil à Hercule ou Télémaque, J'avais été en train de jouer au milieu des nymphes. Ce passage nous amène à parler de François de Fénelon au cours d'un repas du côté de chez Swann. Il est cité en référence. Il y a, dit Brichot, en martelant les syllabes, une définition bien curieuse de l'intelligence dans ce doux anarchiste de Fénelon. Il va nous dire la définition d'intelligence intéressante. On n'a pas toujours l'occasion d'apprendre cela. Alors, il y a bien sûr Joseph Joubert, originaire lui de Montignac, dans le côté de Guermande, est cité également. Ce sont deux mots qui est, je crois, de Joubert. Oh, il vous aurait tellement plu, je me permettrai dès ce soir de vous envoyer ses œuvres. Très fier de vous présenter son esprit. Il n'avait pas votre force, mais il avait aussi bien de la grâce. Il est également cité dans l'ombre des jeunes filles en fleurs. Une société pareille à celle où l'on vit fleurir l'esprit d'un Dourdan, d'un Rémusat, pour ne pas dire d'une Beausergent, d'un Joubert ou d'une Sévigné. Voilà. Ils sont également, alors, on ne va pas trouver d'autres personnages, on ne va pas tous prendre les extraits cités. Alors, il y a Mortimer Fournier-Sarlovez, qui est le neveu du général d'Empire, tu en as déjà parlé, et le général Desgrillés et le tragédien Mounet-Sully, originaire de Bergerac. Alors, on va quand même être surpris de rencontrer deux personnages périgourdins sous leur nom véritable. Alors, tout d'abord, il y a le marquis du lot d'Allemand dans La Fugitive. Alors voilà ce qu'on nous dit, c'est un peu long, mais c'est intéressant. Ami intime de la duchesse de Guermantes et de Swann, le marquis du lot d'Allemand, il est à l'aise dans toutes les situations, fait parfois preuve de sans gêne, même en présence du roi d'Angleterre. Malgré cela, dans ce snobisme, il y avait de l'intelligence, l'intelligente curiosité de Swann. Je me souviens que cet après-midi-là, elle demanda à Mme Guermantes si elle n'avait pu connaître M. Dulot. Et la duchesse, ayant répondu qu'il était souffrant et ne sortait pas, Gilbert demanda comment il était, car, ajouta-t-elle en rougissant légèrement, elle en avait beaucoup entendu parler. Marquis Dulot avait été en effet l'un des amis les plus intimes de Swann avant le mariage de celui-ci, et peut-être même Gilberte l'avait-elle entretenu, mais au moment où elle ne s'intéressait pas à cette société. Est-ce que M. de Bréauté ou le prince d'Agrigente peuvent m'en donner une idée, demanda-t-elle. Oh, pas du tout, s'écria Madame de Guermantes, qui avait le sentiment vif de ces différentes provinciales et faisait des portraits sobres, mais colorés par sa voix dorée et rauque, sous le doux fleurissement de ses yeux de violette. Non, pas du tout. Dulot, c'était le gentilhomme du Périgord, charmant avec toutes les belles manières et le sans-gêne de sa province. À Guermantes, quand il y avait le roi d'Angleterre, avec qui Dulot était très ami, il y avait, après la chasse, un goûter. C'est l'heure où Dulot avait l'habitude d'aller ôter ses bottines et mettre de gros chaussons en laine. Eh bien, la présence du roi Édouard et de tous les grands ducs ne le gênait en rien. Il descendait dans le grand salon de Guermantes avec ses chaussons de laine. Il trouvait qu'il était le marquis du lot d'Allemand et n'avait rien à se contraindre pour le roi d'Angleterre, lui, et ce charmant Quasimodo de Breteuil. C'était les deux que j'aimais le plus. C'était du reste de grands amis, et elle voulait dire votre père, mais elle s'arrête en net. Donc ça n'a aucun rapport avec Gris-Gris ni avec Bréauté. C'est le vrai grand seigneur du Périgord. Du reste, Mémé cite une page Saint-Simon sur un marquis d'Allemand, et c'est tout à fait ça. Je citais les premiers mots du portrait de Monsieur d'Allemand, qui était un homme fort distingué, parmi la noblesse du Périgord, par la sienne et par son mérite. Il y était considéré partout ceux qui vivaient comme un arbitre général à qui chacun avait recours pour sa probité, sa capacité et la douceur de ses manières. Et comme un coq de province. Oui, il y a de cela, dit Madame de Guermantes, d'autant que Dulot était toujours rouge comme un coq. Oui, je me rappelle avoir entendu citer ce portrait, dit Gilbert, sans ajouter que c'était par son père, lequel était en effet un grand admirateur de Saint-Simon. Alors il y a également, comment je pourrais dire, un petit chapitre qui lui est destiné. Alors voilà. De l'âpre saveur des crêpes de blé noir cuites sur un feu d'ajon du marquis du Lot, dont on sait la triste fin quand sourd il se faisait porter chez Madame H, aveugle. Elle comptait les années, moins tragiques, quand après la chasse à Guermantes, il se mettait en chaussons pour prendre le thé avec le roi d'Angleterre, auquel il ne se trouvait pas inférieur et avec lequel on le voit, il ne se gênait pas. Faisait remarquer, avec tant de pittoresque, qu'elle lui ajoutait le panache à la mousquetaire des gentilshommes un peu glorieux du Périgord. D'ailleurs, même dans la simple qualification des gens, avoir soin de différencier les provinces et trouver Madame Guermantes restait elle-même un grand charme qui n'aurait jamais su avoir une Parisienne d'origine. Et ces simples noms d'Anjou, de Poitou, du Périgord faisaient dans sa conversation des paysages, certainement. Voilà. Donc voilà pour le marquis du Lot. Et puis dans la prisonnière, donc je viens de lire, c'était un extrait de La prisonnière, donc de Marcel Proust. Alors, et puis il y a aussi un personnage, Monsieur de Vaugoubert. C'était un diplomate, il était attaché auprès du roi Théodose. Alors, trop poli en confidence avec Charlus, d'une grande médiocrité, il obtient certains résultats grâce au bon sens d'homme du monde. La Saint-Théodose, alors je vous une précision, se fête le 25 octobre, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Théodose. Et normalement, c'est l'Italie ou le Proche-Orient. La réputation, donc, Vaugoubert, il a la réputation d'être une politesse présent le ridicule. Lorsqu'il joue au tennis avec des personnes importantes, il leur demande l'autorisation d'attraper la balle. C'est peut-être pas toujours, voilà. Alors, donc, et puis, il sera particulièrement éprouvé par la mort de son fils au front, s'opposant ainsi à l'idéal conventionnel de virilité de certains militaires et diplomates. Alors, donc, je vais citer, ça se trouve dans Sodome et Gomorre, Monsieur de Vaugoubert était un homme, un des seuls hommes du monde, peut-être le seul, qui trouva ce qu'on appelle à Sodome être en confidence avec Monsieur de Charlus. Mais si notre ministre auprès du roi Théodose avait quelques-uns des mêmes défauts que le baron, ce n'était qu'à l'état bien pâle reflet, c'était seulement sous la forme infiniment adoucie, sentimentale et niaise qui présentait ces alternances de sympathie et de haine, par où le désir de charmer. Et ensuite, la crainte également imaginaire d'être sinon méprisé, du moins découvert, faisait passer le baron. Donc c'est Sodome et Gomorre. Alors, puis Marcel poursuit ainsi, mais pour tout le reste, grâce à son parfait bon sens d'homme du monde, Monsieur de Vaugoubert était un des meilleurs agents du gouvernement français à l'étranger. Quand un homme prétendu supérieur, jacobin, qui était savant en toutes choses, le remplaça plus tard, la guerre ne tarda pas à éclater entre la France et le pays dans lequel régnait le roi. Alors, je vais continuer, je vais peut-être dépasser un tout petit peu le temps. Dieu sait de combien de lettres il a sauvé le ministère, quelles ruses personnelles il déployait, combien de prélèvements il opérait sur le crédit de Madame de Vaugoubert, qu'à cause de sa corpulence, haute naissance, son verre masculin, et surtout à cause la médiocrité du mari, on croyait doué de capacités éminentes et remplissant les vraies fonctions de ministre pour faire entrer sans aucune raison valable un jeune homme dénué de tout mérite dans le personnel de la légation. On disait au ministère, sans y prendre homme de malice, que dans le ménage, c'était le mari qui portait les jupes et la femme les culottes. Or, il y avait plus de vérité là-dedans qu'on ne le croyait. Madame de Vaugoubert, c'était peut-être un homme. Donc, c'est son homme et Gomorre. Voilà. Alors, je vais arrêter là. Je vous certainement une précision que, comme l'a dit Vaugoubert, qu'il n'était plus qu'une espèce, de l'ogre depuis la mort de son fils. Et donc, une petite précision. Pour la famille Dulot d'Allemand, ils possédaient le château de la Côte à Biras et de Montardy à Grand-Brassac. Et pour les deux, les Vaugoubert, le château, lui, était à Quensac. Voilà, j'en ai terminé pour la recherche du temps perdu. Je vous souhaite une bonne semaine. Je crois que le temps va se radoucir. Donc, à très bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.